A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi? Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit, quand on peut un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle.
Bienvenue dans 9 mètres carrés, c'est l'équipe du journal étudiant de Paris ON qui est une nouvelle fois au micro de Grande Contrôle pour le dernier épisode de cette année 2019. Et aujourd'hui, on va essayer de remettre de l'océan dans nos vies, les protéger, les admirer et surtout prendre soin d'eux. Et pour ce joli projet, il y a Tom qui a épluché articles et archives pour sa célèbre vue de presse. Bonjour Tom, ça va ?
Bonjour Laura.
Il y a aussi Clémence qui est allée à la rencontre d'étudiants engagés. Bonjour Clémence.
Bonjour Laura.
Et puis Anaïs, écolo depuis toujours dans l'âme. Bonjour Anaïs.
Bonjour tout le monde.
Et alors pour parler de cette thématique qui nous est chère, on reçoit Adrien Landa. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Bienvenue. Tu es le cofondateur d'une association étudiante qui s'appelle Ocean Stream, qui est née à Paris 1.
Exactement, en 2018, le 1er mai.
Il n'y a pas si longtemps, il y a déjà pas mal de choses à en dire. Pour commencer, tu peux nous présenter cette initiative qui est Ocean Stream en quelques mots. Comment ce projet est né il y a un peu plus d'un an, du coup.
Alors, c'est né de l'Indonésie, en fait, d'un voyage de recherche mené en 2016 sur des récifs coralliens. Et en fait, il y a eu une contradiction lors de ces recherches. C'était qu'il fallait forer sur ces récifs pour obtenir des données, alors qu'ils étaient très mal en point. Et donc, à partir de là, une réorientation et la volonté de s'occuper d'eux plutôt que d'aller juste les questionner un peu de façon violente. Voilà, et ça a été ce retour sur Paris qui a déclenché en fait la mise en place de l'association pour conduire des projets de préservation.
Et vous étiez plusieurs ?
Alors, en Indonésie, j'y ai été seul. Et puis, de retour sur Paris, j'ai parlé avec un ami qui m'a mis en lien avec un autre ami. Et puis, de là, de fil en aiguille, on a fondé Ocean Stream.
Moi, j'avais une petite question. Au niveau des profils des étudiants qui ont fondé Ocean Stream, est-ce qu'il y a des scientifiques ? Est-ce qu'il y en a, c'est que des écolos ? Enfin, c'est quoi les profils qui sont dans l'asso ?
Les deux cofondateurs actuellement à temps plein dans l'association, Auguste et moi-même, on vient en fait de la géographie. Auguste, il a fait une licence en géographie classique. Ensuite, il s'est orienté vers la gestion de projets internationaux. Et pour ma part, j'ai fait un M1 en géographie physique, donc très orienté un peu sciences dures. Et finalement, je me suis réorienté sur le développement durable des territoires avec un autre master. Et donc là, c'était plus gestion économique et sociale. Donc des scientifiques, d'origine, avec une mutation, je dirais, pour avoir les outils afin d'agir sur les problèmes qu'on a devant nous.
Moi, je voulais te demander, Adrien, tu dis quoi aux étudiants pour les rallier à ta cause ? Parce que ça paraît pas très évident comme ça de s'engager dans les océans. Moi, j'y comprenais rien avant de commencer l'émission. Donc qu'est-ce qu'on dit à un étudiant pour qu'il vienne à Ocean Stream ?
On lui demande de prendre une bonne respiration.
Et de plonger.
Ouais, et puis d'en prendre une seconde, en fait. Et la seconde, elle vient de l'océan, tout simplement. L'océan, c'est plus de 50% de l'oxygène qu'on respire, c'est plus de 4 milliards de personnes qui en dépendent pour de l'apport en protéines, c'est vos vacances, mais c'est aussi notre futur en réalité. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'un étudiant ou une étudiante pourrait avoir envie de s'engager, et puis parce qu'on vient tous de là en fait, c'est le berceau du monde, c'est le berceau de la vie.
La première cellule, non, c'est ça ?
Exactement, la première cellule, et on en est rempli de cellules.
Comment est-ce que, en tant qu'étudiant et citadin, on réussit à s'engager dans une cause qui peut être très loin de nos préoccupations, nous qui sommes dans une grande ville, à plonger dans des bouquins? Comment est-ce qu'on en vient à s'engager là-dedans?
La question du lien, elle est essentielle. Actuellement, il y a difficilement des liens très concrets. Nous, on essaye de les construire, justement. Donc, actuellement, je dirais, c'est de rêver de l'océan et de garder ce lien qu'on peut avoir, notamment quand on part en vacances, qu'on va passer 2 semaines pour les plus chanceux, les plus polluants, à l'autre bout du monde, dans des récifs merveilleux. Pour les moins chanceux et plus écolos, peut-être sur les côtes françaises, mais qui peuvent être même...
même voler en Bretagne, on pense tout ça.
C'est très bien, les côtes françaises aussi, hein. Faut pas dénigrer comme ça.
Tout à fait. Je me permettrai pas. Magnifique Bretagne. Sans ces algues vertes, ce serait encore mieux quand même.
C'est ça, c'est clair.
Donc je pense que c'est ça, c'est de rêver, de garder ce lien profond avec la nature, d'aller le chercher si on l'a pas trouvé encore, et ensuite de comprendre la mécanique. Donc comment ces choses-là, elles sont liées. Comment moi, quand je vais prendre un gobelet en plastique, finalement, je vais être en lien avec l'océan d'une certaine manière. Et c'est d'essayer de développer cette sensibilité, en fait, pour pouvoir s'y raccrocher avec des petites actions qui peuvent paraître éloignées et finalement qui sont extrêmement pertinentes et qui m'y connectent au quotidien.
Alors ce lien avec l'océan, il est un peu... beaucoup mise à mal. Et Tom, tu nous as... Enfin, c'est à toi de jouer. Comme d'habitude, tu nous as un peu fait un petit état des lieux de notre sujet.
Alors, si vous regardez longtemps au fond des abysses, les abysses voient au fond de vous. Si on en croit Nietzsche, le cœur des océans ne serait que le reflet de nous-mêmes.
Alors, on voit quoi quand on contemple le fond de la mer ?
Eh bien, il y a ce qu'on appelle des zones mortes. Ces zones mortes, ce sont des zones contenant très peu d'oxygène en raison du déversement majeur d'eau usée et d'écoulement agricole. Le problème que pose la multiplication de ces zones, c'est que sans oxygène, les espèces sous-marines ne peuvent pas survivre.
Ce qui entraîne l'effondrement de certains écosystèmes.
Oui, aujourd'hui, d'après l'UNESCO, on compte près de 500 zones mortes. Pour nos amis géographes, ça représente 245 000 km², soit la superficie du Royaume-Uni. Oui, je parle bien du Royaume-Uni, incluant le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord. Est-ce que ça vous fait flipper? Parce que j'ai d'autres chiffres. 220 millions, c'est le nombre de tonnes de plastique produits chaque année. Et 46 000, ce sont ces mêmes morceaux de plastique qu'on retrouvait flottant en surface de nos océans en 2006, selon les estimations du programme des Nations Unies pour l'environnement.
Et alors, le plastique, ça change quoi, concrètement, dans nos océans?
Alors, je vais vous donner un autre nombre. 100 000 mammifères marins meurent chaque année à cause de ces mêmes déchets plastiques, et c'est sans compter les oiseaux, les végétaux et tout ce qui va avec. Alors, qu'en disent nos médias? Eh bien, à peu près tous la même chose, et pas depuis 10, 20 ou 30 ans, non. On va écouter cette interview du commandant Cousteau, datant de 1970.
Depuis 20 ans, on peut estimer grosso modo à 35 à 45% la réduction de la vie dans l'océan.
Vous dites que les océans sont encore plus pollués que la Terre.
Oui, c'est normal parce que la mer est le réceptacle normal, l'aboutissement normal de tous les égouts, de tous les déchets, et même les échappements de voitures finissent dans la mer. Chaque fois qu'une ménagère tue un moustique avec une bombe de DDT, tôt ou tard, ce sera lavé par les eaux de lavage des murs qui vont dans les égouts et qui finissent dans la mer. Les retombées radioactives sur la terre sont lavées par la pluie et finissent aussi dans la mer. Enfin, tout finit dans la mer. Tous les produits toxiques de notre civilisation aboutissent à l'océan. Et les océans ne sont pas aussi immenses qu'on l'a cru à un moment donné. Leur volume est limité. La capacité de purification, d'auto-purification de l'océan est dépassée à l'heure actuelle largement. Et par conséquent, on empoisonne progressivement l'océan et la vie diminue rapidement. En plus...
Combien d'espèces ont disparu?
Alors, d'après des estimations scientifiques précises, il y a 5 ans, il y avait déjà, depuis 50 ans, un peu plus de 800 espèces totales qui avaient disparu complètement, définitivement. Donc, par extrapolation, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un millier d'espèces qui ont disparu tant dans l'air, sur terre, que dans la mer.
Pour ceux qui ont loupé des classes d'histoire, vous venez d'entendre l'un des plus grands explorateurs des fonds marins, Jacques-Yves Cousteau, décédé en 1997. Il s'exprime au micro de Patrick Clément, un journaliste de la deuxième chaîne, aujourd'hui connu sous le nom de France 2. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on est tous responsables, du grand industriel jusqu'à la ménagère quadragénaire du XXe siècle. La conséquence de tout ça, c'est donc la disparition des espèces. Et Cousteau nous parle en 1970 d'à peu près 1000 espèces disparues.
Et tu as un autre chiffre, puisque tu as plein de chiffres.
Oui, j'ai d'autres chiffres, Laura. D'autres au pluriel. Chaque année, ce sont 26 280 espèces animales et végétales qui disparaissent d'après Planétoscope. En 1996, un an avant le décès du commandant, 5205 espèces étaient menacées. Aujourd'hui, elles sont 23250. Parmi ces espèces, on retrouve 2100 espèces d'amphibiens et 2386 espèces de poissons, selon Futura Science. Mais comme je l'ai dit, les animaux ne sont pas les seuls concernés. Parmi la flore, les récifs coralliens sont en voie d'extinction, eux aussi. Près de la moitié ont disparu en moins de 30 ans.
Et certains décident d'arrêter ce massacre.
Alors, avant qu'Anaïs ne nous fasse une syncope, je tiens à vous présenter deux Catalans de l'entreprise Plasticatsi qui cherchent des solutions.
Deux chercheurs catalans ont pu constater que 10% des plastiques produits sont rejetés en mer, soit 8 millions de tonnes par an, essentiellement des minuscules morceaux qui s'infiltrent partout, y compris dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, de retour à Bagnols-sur-Mer, ils étudient ces microplastiques et cherchent des solutions.
On est un peu des donneurs d'alerte, les scientifiques. Et c'est vrai, quand on est sur le terrain, c'est assez catastrophique, les quantités de plastique qu'on voit. Maintenant, on veut absolument rester positif parce que des solutions, elles existent aujourd'hui. Il faut à la fois que ça soit les industriels, le consommateur et les scientifiques qui travaillent ensemble. Donc, l'objectif de cette société, justement, c'est de faire avancer la connaissance scientifique pour qu'ensuite, elle puisse être transportée vers les industriels et que le grand public sache ce qu'on est en train de faire.
Anne Leila a ainsi créé l'entreprise Plasticatsi. Les industriels s'adressent à elle afin de tester de nouveaux plastiques biodégradables ou en tout cas beaucoup moins nocifs pour l'environnement.
On va proposer d'autres formes de plastique qui existent, qui peuvent être biosourcées, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale. C'est le cas par exemple de plastiques qui sont issus de bactéries, qui sont issus d'algues. Après aujourd'hui, celui qu'on connaît le mieux, c'est celui issu du maïs ou du sucre de canne. Et on va les tester, c'est-à-dire ils vont les utiliser dans leur machine. Et nous, on testera le produit final en termes de biodégradabilité, mais également en termes de toxicité.
Ce reportage France 3 est sorti il y a 3 jours et présente donc des chercheurs en quête de solutions.
Et ils ne sont pas les seuls à être mobilisés, puisque tu connais encore plein d'autres personnes, Tom.
Oui, dans un article de La Voix du Nord publié en novembre dernier, on raconte l'histoire de cette centaine d'enfants francophones et néerlandophones qui se sont rendus à Dunkerque pour réaliser des dessins sur le thème de la dégradation marine. L'objectif étant de créer un album de prévention contre la pollution. Ces enfants, qui ne parlent pas la même langue, sont donc sensibilisés dès la classe de primaire à l'idée d'une coopération environnementale pour nettoyer nos plages et nos océans. Ce projet, Clean Sea, est impulsé par le CPIE, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, et par Horizon Éducatif.
Et on parle d'enfants, mais c'est peut-être nous les responsables, non ?
Alors oui et non, oui, car ils incarnent l'avenir de cette planète, un avenir qui doit évidemment être plus écologique si on veut qu'il existe. Et non, parce que finalement, oui, l'avenir a déjà commencé. Alors, ces jeunes, ils se bougent. L'exemple, quoique controversé, de Greta Thunberg et de la marche pour le climat, c'est la preuve qu'aujourd'hui, éduquer les nouvelles générations porte ses fruits. Seulement, j'ai une meilleure question à vous soumettre. Est-ce qu'il faudrait aussi éduquer les adultes ? Car après tout, ce sont eux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui peuvent voter, prendre des initiatives, eux finalement, qui laissent les déchets couler et les migrants se noyer.
Donc vous allez comprendre. Effectivement, jeudi dernier, le navire Open Arms de l'ONG espagnole Proactiva est saisi dans le port italien de Pozzello. Il vient de débarquer 216 réfugiés sauvés en pleine mer. Son capitaine, ses deux adjoints sont menacés de poursuites pénales, jusqu'à 7 ans de prison pour trafic d'êtres humains et aide à l'immigration irrégulière. Les autorités italiennes leur reprochent quoi ? Essentiellement d'avoir refusé de remettre les réfugiés en question aux gardes-côtes libyens qui les réclamaient, fusil au poing, et ce, en dehors des eaux territoriales libyennes. Après cet arraisonnement, il ne reste qu'un seul navire d'ONG en Méditerranée, c'est l'Aquarius français qui a déjà sauvé 28 000 personnes en 3 ans. Flashback, on remonte juste un an en arrière. Pas moins de 10 ONG avec autant de navires étaient alors présentes et travaillaient de façon coordonnée. L'an dernier d'ailleurs, près de la moitié des migrants ont été secourus par ces navires, l'autre moitié par des bâtiments militaires. Et puis progressivement, en 12 mois, toutes les ONG ont jeté l'éponge. Soit leur bateau a été saisi, comme Proactiva là, soit elles ont renoncé de peur des représailles judiciaires. On peut le noter au passage, hein. Désormais, l'Europe menace de jeter en prison des gens qui sauvent leur prochain. Bienvenue sur le continent des philosophes des Lumières.
C'était un extrait de la chronique de Jean-Marc Four dans Un jour dans le monde, l'année dernière sur France Inter. Elle met en lumière un autre drame qui se passe sur nos mers, la mort par milliers de migrants chaque année. Je reprends la citation de la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies, Carlotta Sami. Si nous ne faisons rien, la Méditerranée deviendra une mer de sang. En fait, elle dénonce l'absence d'aide humanitaire fournie par l'Europe pour sauver ces 14 000 hommes, femmes et enfants, un tiers, hein, les enfants, qui se sont noyés entre 2014 et 2017. En juin 2019, ils sont déjà 350 à avoir péri.
Mais en Europe, la justice, c'est un peu complexe, non, Tom ?
Faut-il vraiment s'étonner que les bateaux de sauvetage des ONG s'amenuisent en Méditerranée alors qu'on s'acharne pour les arrêter ? Parce qu'il est là le drame du 21e siècle qui touche aussi bien la terre que les mers, nous restons silencieux, perdus devant l'inaction. Aujourd'hui, un septième continent de déchets existe, condamnant des milliers d'espèces. Les végétaux, les animaux et les humains meurent dans les océans, disparaissent dans des abysses que nous contemplons inexpressifs.
Moi, j'avais envie de demander à Adrien qu'est-ce qu'on dit aux climato-sceptiques. Je crois qu'on va leur envoyer la revue de presse de Tom, en fait. Adrien, moi, je vais te demander, du coup, vu qu'on ne peut pas faire marche en arrière, là, comment tu fais pour garder espoir et pour déployer autant d'énergie au quotidien dans tes actions et dans ton engagement?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est de ne pas être immortel ou de ne pas être différent des autres. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Et pendant les bas, c'est extrêmement important d'être soutenu, d'avoir des gens avec qui discuter, rigoler, faire autre chose. Et sinon, il y a aussi le fait que je pense que je suis un rescapé. En 2017, j'ai été victime de deux ouragans, Irma et Maria, dans les Caraïbes. Et j'ai vu ce que c'était qu'une catastrophe naturelle qui détruit tout sur son passage. On était en plein dans l'œil du cyclone avec Irma, catégorie 5, des vents à plus de 320 km/h, je vous laisse imaginer, qui déracinent tout et qui mettent les bateaux sur la terre et les véhicules dans l'eau. Et après ça, en fait, on réalise qu'il y a toujours une vie, quoi qu'il arrive. Et c'est ça, en fait, le constat. C'est que même si demain n'est pas rose, même si demain c'est potentiellement l'enfer, il y aura toujours une vie dans cet enfer. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on maintient, en fait ? Combien de fonctions on va se garder ? Donc, à quel point on va être capable de maintenir une forme d'humanité ? Et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Parce que sinon, clairement, ça va être chacun son territoire, chacun ses petites ressources, et on va rester derrière des camps retranchés, et voilà, on la connaît la suite.
C'est magnifique ce que tu dis. On a envie de te suivre aussi dans ton engagement. Enfin, le fait de dire qu'il y a quand même une vie, et c'est ça la flamme, en fait, la petite flamme qui naît en nous.
Exactement.
J'avais une question aussi par rapport au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font comme mesure? Là, je ne sais pas si tu as vu, mais d'ici 2040, ils veulent interdire tout plastique jetable à l'horizon 2040. Et ils parlent d'un signal fort pour l'Europe et pour le reste du monde. Est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que pour toi, en tant que cofondateur de cette association, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est trop tard?
Personnellement, je trouve que c'est un peu une blague. On est en train de nous dire qu'on a 30 ans devant nous pour être extrêmement ambitieux. Et on nous dit qu'en 2040, on va potentiellement interdire les plastiques à usage unique, en sachant que le gouvernement actuel n'aura plus aucun pouvoir en 2040. Et que d'ici là, ça veut dire qu'il y a plus de 20 ans qui laissent aux industriels toute la marge de manœuvre pour préparer des alternatives qui permettront de maintenir la même quantité de plastique. Simplement, on pourra le renommer autrement, ce ne sera plus l'usage unique, mais ce sera toujours les mêmes quantités. Et d'ailleurs, les industriels, leurs prédictions sont claires. En 2050, eux, ils veulent un monde avec 600 millions de tonnes de plastique, avec donc une augmentation de 5% par an à partir de maintenant. Donc pour moi, cette loi, en fait, elle encadre rien. C'est un coup d'annonce. Ça ne sert à rien si ce n'est potentiellement permettre de calmer un petit peu les gens qui ne comprennent pas la situation. Voilà. Et de faire semblant qu'on agit.
Alors justement, par rapport à ces gens qui ne comprennent pas la situation, on éduque qui en priorité ? Les parents ou les enfants ?
Alors, on en est à un stade où il faut éduquer tout le monde le plus vite possible. Alors, la question, c'est où est-ce que ça passe le mieux ? Potentiellement, les enfants, ils vont plus rapidement attraper un message et pouvoir le relier, le matraquer à leurs parents. Donc, c'est extrêmement pertinent d'aller vers eux. Les parents, ça prend beaucoup plus de temps et il faut faire des actions répétées et être aussi bien sur l'aspect émotionnel que l'aspect objectif et scientifique. Donc, c'est un peu plus complexe. Clairement, la lutte idéologique, si on peut appeler ça comme ça, elle est sur les deux fronts, vraiment.
Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on critique beaucoup ces jeunes qui se mobilisent pour l'écologie, sont pas mal critiqués par des personnes plus âgées, des adultes. Et on se dit c'est fou parce que ces jeunes, ils ont une force que nous, je sais pas, on doit tous avoir un peu plus de la vingtaine ici. On n'a pas forcément non plus été éduqués comme ça à l'école ou on n'a pas eu de sensibilisation à l'écologie. Et je me dis, on a vu dans la revue de presse que ce problème, il est là, mais depuis des années. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on réagit et on sonne l'alarme alors que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que l'alarme sonne ?
Parce qu'aujourd'hui, l'alarme, elle est quand même beaucoup plus médiatisée. Les médias se sont ouverts, c'est-à-dire qu'au moment du sommet de Rio 92, il n'y avait pas YouTube. Aujourd'hui, c'est quand même, alors d'autres médias, je cite une plateforme, mais on pourra en citer plein d'autres comme Imago, qui font du très bon travail. À ce moment-là, il y a une information qui n'est plus contrôlable, et à ce moment-là, le grand public peut s'approprier plus facilement ce genre de sujet. Et puis, il y a aussi une urgence qui augmente, il y a aussi des changements qui sont de plus en plus brutaux, la communauté scientifique arrive avec des chiffres de plus en plus forts, et donc, il y a un moment, ça filtre, ça passe à travers les filtres plutôt, quoi qu'on fasse. Et donc, forcément, je pense que la population, dans son ensemble, se met à pouvoir s'approprier davantage sur le sujet, et même au quotidien, on le voit dans nos petites actions, que ce soit les déchets plastiques partout, que ce soit la pollution qu'on respire dans les rues de Paris, et les cancers qu'on a autour de nous.
Alors ces jeunes qui s'engagent, Clémence, elle est allée les rencontrer. Tu les connais aussi, je crois, Adrien. Clémence, raconte-nous cette expérience.
Ouais, alors moi j'ai bravé le froid parisien pour me rendre à une soirée des bénévoles de l'association Surfrider. Donc c'est Soriane, Raphaël et Romain qui m'ont reçu dans un bar dont le nom n'est autre que la surferie, on va rester dans le thème. C'est leur rendez-vous mensuel à eux, donc tous les premiers mardis du mois, ils s'y retrouvent entre bénévoles. Et donc Romain est étudiant en première année de magistère d'économie à Paris 1, Soriane est étudiante en master de communication au CELSA, et Raphaël est en L3 de sciences sociales à Descartes et sort d'un diplôme d'animation socioculturelle, et sont tous les trois engagés donc dans l'association Surfrider, soit parce qu'ils se rapprochaient des sports de glisse ou de la plongée, soit parce qu'ils avaient envie de donner de leur temps pour des actions utiles. Donc on a parlé mégots, engagement, puis océan.
Surfrider, c'est pas une association étudiante, c'est une association où tout le monde peut rentrer. Il y a plusieurs antennes, il y en a 46 en tout en Europe, où il y en a beaucoup sur le littoral ouest, mais il y en a une du coup sur Paris. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a trois points d'action. Tout d'abord, de la mobilisation. Donc là, ça va être des collectes de déchets, où en fait, on va aller ramasser les déchets, on va les trier ensuite par type de déchets, et ensuite, on va les compter. Et en fait, le comptage va nous servir ensuite à avoir des chiffres concrets pour appuyer auprès des institutions. Et faire tout simplement du lobbying, en fait, pour faire avancer les lois. Donc, il y a une équipe chez Surfrider qui s'occupe spécialement du lobbying. Il y a aussi des interventions dans les événements, que ce soit des événements qui sont très engagés déjà sur l'environnement, où là, on va déjà avoir un public qui est averti, ou alors un public un peu moins averti dans les festivals ou ce genre de choses. On fait des clean tags aussi. Donc, ce sont des tags à la craie avec des messages de sensibilisation.
Il y a 2 semaines, c'était la semaine européenne de réduction des déchets. Du coup, il y a eu énormément d'actions dans des facs par plein d'assos environnementales. Et du coup, Surfrider a fait pas mal d'actions, notamment à la Barge du Crous, une action zéro mégot. Il y a eu une intervention à la mairie du 2e arrondissement.
Alors, à Paris, une antenne à Paris. Alors évidemment, le premier truc qu'on se dit quand on se rend dans une asso engagée pour la protection des océans en ville, c'est « mais je suis en train de faire quoi? Ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi ». Et en fait, non, pas du tout. C'est juste qu'on n'y comprend complètement rien. Donc protéger les océans, c'est pas juste nettoyer les plages, ça passe par plein d'autres actions.
Ouais, moi aussi, pareil, c'est aussi personnel. Du coup, je fais beaucoup de snowboard, je fais beaucoup de surf, donc forcément, j'aimerais bien continuer à surfer dans un endroit propre. À quoi il y aura une association qui serait présente en ville, je dirais, et pas proche de la mer. Faut savoir qu'en fait 80% des déchets qu'on va retrouver dans la mer viennent en fait des grandes villes ou de la terre, on aime dire. Donc c'est pour ça qu'on est présent ici, qu'on fait beaucoup d'actions de sensibilisation pour éviter justement d'avoir des déchets un peu partout qui sont conduits par les pluies, par les caniveaux, jusque dans les égouts et puis finalement qui finissent dans les rivières et du coup dans la mer.
La protection des océans, c'est quelque chose qui nous touche tous déjà. Même si on ne vit pas près de la mer, si on vit en ville, peut-être qu'on part tout simplement à la mer et c'est pas forcément agréable d'avoir des mers polluées. Et aussi parce que pour ceux qui mangent du poisson, en fait, il y a 50% des poissons qui contiennent des microplastiques, mais il y a beaucoup trop de poissons en fait qui contiennent des microplastiques, donc c'est des plastiques qui se dégradent dans la mer, qui deviennent tout petits en fait, qui sont ingérés par les poissons et qu'on mange ensuite. Et c'est tellement récent que on n'a pas de données concrètes sur qu'est-ce que ça fait au corps humain en fait si on ingère ces poissons-là contaminés. Et du coup voilà, c'est une grande question pour l'instant, mais je pense pas que ça donne quelque chose de forcément bon quoi.
Des surfeurs qui en avaient marre de voir les littoraux se dégrader, en gros, et du coup hyper sensible aux littoraux, et parce que t'y passes forcément beaucoup de temps si tu fais du surf, mais c'est pas que ça, Surfrider, c'est plus, enfin maintenant c'est une asso qui a pris énormément d'ampleur, qui est reconnue aujourd'hui d'utilité publique. Plein de gens qui se sentent concernés et pas forcément des gens qui pratiquent le surf, et Surfrider c'est une asso qui est très facile d'accès. Ils ont très ouvert, que tu connaisses le sujet ou pas, en fait c'est la même chose. Si t'as envie de t'investir dedans, t'apprendras sur le tas et tu comprendras, tu apprendras de plus en plus de chiffres et tu pourras toi aussi sensibiliser. Et maintenant, la sensibilisation écologique, elle se fait beaucoup aussi autour de la communication avec tes proches et tout. Et c'est du bouche à oreille, en fait, qui fait que maintenant, les gens, ils prennent des comportements responsables.
Et à ce moment-là, je vois concrètement les actions menées par Surfrider. Mais moi, qui ai grandi au bord de mer, j'avais pas du tout compris le grand impact des déchets dans une ville. Moi, qui suis maintenant déracinée de ces bords de mer, et ce, pour un bon moment. Quand on vit à Paris, quand on vit dans une grande ville, comment fait-on pour contribuer à la protection des océans depuis chez nous, sans forcément s'engager dans une asso, les gestes qu'on peut faire au quotidien?
Arrêtez les bouteilles plastiques.
Et jetez pas les mégots par terre surtout, parce qu'un mégot pollue 500 litres d'eau. Vu tous les mégots qu'on a à Paris, c'est pas possible quoi. L'eau des robinets à Paris est complètement potable, donc on peut tous acheter une gourde et juste la remplir à l'eau du robinet, ça sera très bien déjà.
Il n'y a aucun risque franchement de boire l'eau du robinet.
Bénévolat à la carte, donc on s'engage comme on peut avec le temps qu'on a. En fait, tous les mois à peu près, on reçoit une newsletter avec toutes les actions. On s'inscrit en fait sur les actions qu'on veut. Si on veut s'engager beaucoup, on s'inscrit à toutes les assos, enfin à toutes les actions, pardon, et à toutes les assos aussi, hein, pourquoi pas. Non, mais on s'engage à toutes les actions et même organiser des événements, c'est possible.
Maintenant, objectivement, en tant qu'étudiant, on a énormément de temps. Après, c'est juste qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre temps. Et en vrai, 2 heures par mois, aller ramasser des mégots dans les rues ou sensibiliser un peu sur l'environnement, je pense que ça. C'est quelque chose de normal et en fait qu'on devrait tous faire. Récolte de mégots autour du canal Saint-Martin. Et pendant, on a ramassé des mégots avec 70 personnes. Et en une heure, on a collecté plus de 14 000 mégots, ce qui est énorme. Et on se rend pas compte que les gens jettent autant les mégots par terre. Perso, la dernière action que j'ai faite avant, c'était à la barge du Crous. On arrive avec le réfet de Surfrider a fait une action à la barge du Crous. Avant de faire cette action-là, une semaine avant, je fumais 30 clubs par jour et je me suis dit que j'allais faire une action zéro mégot avec Surfrider et c'était un peu de l'abus. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter de fumer pour des raisons écologiques.
On s'engage pour l'océan parce que l'océan, c'est 50% de notre oxygène. Donc il y a 50% qui est fourni par les forêts, par les arbres en général, la végétation, et 50% qui est fourni par les océans.
Alors moi, j'ai pas prévu d'arrêter de fumer tout de suite, hein, mais par contre, je remercie une fois de plus Soriane, Raphaël et Romain pour leur temps, et je voudrais dire que leurs mots sont assez éclairants sur le type d'action qu'on peut mener. Des associations comme eux, comme Surfrider, comme Ocean Stream, font prendre conscience que nous ne sommes pas impuissants face à la situation et que même si je ne suis plus près de la mer, ben, je l'aime toujours autant et que je peux quand même faire quelque chose pour elle depuis ma ville.
Merci Clémence. Adrien, quand tu entends ce reportage, j'imagine que ça te rappelle des souvenirs, enfin ça te rappelle même la réalité d'aujourd'hui, parce que je crois que vous avez collaboré Ocean Stream et Surfrider ensemble sur quelques actions.
Effectivement, on a déjà travaillé avec Surfrider sur des activités de sensibilisation et aussi dans le cadre de conférences. Une conférence qui a été donnée à Tolbiac dans 2018, si je dis pas de bêtises. Et sinon, récemment, très récemment, c'était Galerie Soufflot, 12 Place du Panthéon, lieu mythique. Et là, on avait récupéré plein de déchets sur la côte d'Opale, en fait, au cours d'une clean walk montée par la municipalité, qu'on a ramené à Paris après les avoir triés, nettoyés, je vous raconte pas le bordel.
J'imagine.
Et on a envahi la Galerie Soufflot avec une grande bâche et on a tout réparti dessus. C'était bien triés, bien organisés, ils étaient magnifiquement moches, nos déchets. Voilà. Et Surfrider était là pour sensibiliser en plus, pendant que d'autres personnes récupèrent ces déchets, en fait, pour faire des petites décorations de Noël. Voilà, c'était très beau.
Et alors, justement, cette opération de Noël, hashtag mon beau sapin, c'est ça ?
Mon beau plastique.
Mon beau plastique.
Voilà, hashtag mon beau plastique. C'était justement l'articulation de toutes ces actions, de la mer jusqu'à Paris et jusqu'à l'un des sapins du Panthéon. C'était dimanche dernier, en réalité. Donc, nous étions le 8, si je ne dis pas de bêtises. Ça a eu lieu pendant une heure. On était rassemblés avec d'autres ONG, notamment XR et d'autres que je n'ai pas en tête actuellement. Mais je les remercie d'avoir été présents au cours de cet accrochage où finalement on a fait la désobéissance civile et on s'attendait à voir les policiers. On n'a pas vu la police, je pense qu'ils étaient occupés ailleurs. Et ça s'est super bien passé. On regrette juste que la mairie n'ait pas changé son avis. Elle n'ait pas laissé nos supporters superbe décoration pendant plus longtemps que 36 heures.
Et justement, est-ce que ça devient nécessaire de faire des actes de désobéissance civile? J'ai l'impression que ça devient un leitmotiv de faire ce genre d'action.
Parce que on a difficilement accès aux voies traditionnelles ou classiques qui permettent de porter un message. C'est-à-dire qu'en général, il faut déjà des associations beaucoup plus structurées, avec beaucoup plus de gens, plus de moyens, pour pouvoir planifier vraiment en amont des événements et puis pouvoir attirer les médias avec des choses plus classiques. Et surtout, on voit aussi que pendant toutes ces années où il y a eu déjà énormément de travail de fait par plein d'organisations, les choses ne se sont pas améliorées en réalité. Donc ça veut dire que les modes opérationnels qu'on a utilisés jusqu'à présent ne sont pas les bons pour faire évoluer notre société. Et comme on a besoin de la faire évoluer encore plus rapidement, on est en train, je pense, d'expérimenter d'autres choses. Et plus la pression environnementale sera forte, et forcément plus on ira vers des actions qui n'ont pas le consensus général, ou en tout cas qui ne sont pas forcément approuvées par les autorités en place, parce que ces autorités soit elles ont un fonctionnement lent ou qui ne permettent pas de prendre initiative, soit aussi parce que elles n'ont pas la volonté de donner de la visibilité à ce genre d'initiative, alors que ça les concerne.
Du coup, si on peut même pas compter sur le gouvernement, ouais, c'est dommage.
Bah, mais... la loi qui a été votée, voilà, j'ai envie de dire, c'est un très bon exemple qui montre que il faut passer par d'autres actions que le gouvernement, puisque le gouvernement ne prend pas la mesure du problème.
En tout cas.
Justement, toi, tu as décidé vraiment d'être dans l'action avec Ocean Stream. Vous avez un projet fou, enfin, que nous, on trouve absolument dingue, qui a une dimension internationale. Et on va écouter la petite vidéo que vous avez réalisée et qui est vraiment, vraiment chouette.
Il y a 40 millions d'années, l'océan recouvrait Paris. Aujourd'hui, il est mondialement menacé par nos activités. C'est pourquoi Ocean Stream a décidé de le ramener dans la capitale pour le protéger.
En fait, vous avez suivi un peu les nouvelles. C'est de 2015 à 2017, on a eu une grande vague de chaleur et on a perdu un tiers de la grande barrière de corail.
Car l'océan crée la vie. Son plancton donne l'oxygène nécessaire à une respiration sur deux. Ces poissons nourrissent plus de 4 milliards d'êtres humains. Ces molécules nous servent à soigner le cancer. Ces coraux bâtisseurs de récifs nous protègent des vagues et des tempêtes. Sa masse transporte 90% de nos marchandises. Son corps régule le climat pour nous offrir les conditions de la vie. Et sa couleur donne à notre Terre son nom de planète bleue. Pourtant, comment le préservons-nous? Pour Ocean Stream, il est temps d'en prendre soin. Notre travail commence avec les récifs coralliens. Ces arbres marins sont la pierre angulaire de l'équilibre océanique. Aujourd'hui, ils sont condamnés si nous ne limitons pas le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Pour sauver ces êtres qui nous font vivre, Ocean Stream a imaginé l'aquarium digital, un outil pour introduire l'océan dans notre quotidien, pour le mettre à la portée de tous afin que nous y pensions, que nous l'aimions et que nous le protégions ensemble où que nous soyons. Un récif corallien filmé par notre caméra pourra être transmis en direct sur tout écran disponible. Au quotidien, l'océan se rappellera à notre conscience. Et l'argent généré par la diffusion de son image servira à préserver la vie marine dont nous dépendons.
Et alors ce projet, il est absolument dingue. Donc vous allez mettre des caméras, si je résume, des caméras sous l'océan. Et les personnes vont acheter ces aquariums digitaux pour les avoir en écran, par exemple, sur un téléphone, sur un ordinateur. Comment vous allez mettre ça en place? Ça paraît tellement dingue et rêveur et utopique,
et super,
même
original,
si c'est magnifique.
Surtout.
Hein. Comment vous allez faire, en fait?
Clairement, ça vient d'un idéal. Et aujourd'hui, on rentre dans le nerf de la guerre et la technique et tout ça. Et c'est complexe à mettre en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Après, ce qui est bien, c'est que plus on avance, plus on se rend compte que finalement, c'est possible. Il faut juste s'en donner les moyens. Actuellement, nous travaillons sur un prototypage. Ce prototypage, il consiste à déjà aller faire un film de 7 jours en continu d'un récif corallien en très haute qualité et pour pouvoir le diffuser effectivement sur des téléviseurs, sur des ordinateurs, sur des smartphones et de tester en fait la capacité de ce paysage sous-marin incroyable à capter l'attention et aussi à bénéficier aux gens. Parce que les études scientifiques faites sur la santé, elles prouvent que quand on est dans un environnement sain et naturel, en fait, on va mieux. Et c'est une vraie synergie qu'on veut développer. Puisque non seulement on développe un aquarium digital qui permet de faire de la sensibilisation s'il est diffusé largement, mais aussi nous, ce qui nous intéresse, c'est un mécanisme financier associé à ça. C'est-à-dire que les gens qui vont s'abonner à cet aquarium digital, ils vont aussi contribuer à la conservation de ce qu'ils voient. Et là, on parle de spectateurs, des gens qui vont... vous connaissez le principe des gouttes de Lilo ?
Non, explique-nous.
Non. Pas du tout.
Lilo, donc, c'est un moteur de recherche sur Internet. Et à chaque fois que vous faites une recherche, vous allez potentiellement gagner une petite goutte. Et cette petite goutte, en fait, vous allez pouvoir la remettre à un projet porté en général par des associations qui visent à l'intérêt général. Et là, c'est la même idée. C'est-à-dire que si vous vous abonnez à l'aquarium digital, vous allez recevoir avec votre abonnement un certain nombre de points. Et ces points, vous allez ensuite pouvoir les distribuer à des projets de conservation marine avec lesquels on va travailler. Et ainsi, en fait, votre regard peut transformer en réalité le monde autour de vous.
C'est beau,
c'est magnifique. Tu as une question, une remarque.
Il y a un truc qui me taraude un peu. On parle de sensibilisation, du coup, avec ce projet, c'est ça l'objectif. Mais c'est un système donc d'abonnement pour regarder. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que la cible, elle reste très réduite à ceux qui sont déjà engagés dans la cause et la cause de la sauvegarde environnementale finalement, et que ça ne s'adresse pas à ces personnes qui ne sont pas du tout sensibles à ça?
Alors tout à fait, je pense que si on ciblait le grand public dès le début, c'est ce qui se passerait, on n'aurait que les gens qui sont déjà intéressés. Alors que nous, notre stratégie, c'est d'abord d'aller vers des organisations, des institutions, des entreprises, donc des groupes. Où ça veut dire que s'il y a un écran qui est converti en aquarium digital, en fait, il va toucher des milliers de personnes qui sont sensibilisées ou pas. Et donc, imaginons, tu vas au travail tous les jours et puis dans le hall d'accueil, il y a l'aquarium digital. Ou alors à côté de la machine à café. Puis bon, bah, la première fois, tu ne prêtes pas forcément attention. Et puis peut-être que le deuxième jour, bon, bah, tu vas commencer à en parler. Et puis au fur et à mesure, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ton environnement. Et ça peut même... Ce qu'on a découvert, c'est que ça crée des discussions. En fait, l'environnement et la nature vont créer des rapports sociaux beaucoup plus intenses et plus riches que d'autres éléments dans ton quotidien. Et donc, finalement, ça va t'attacher à ces éléments-là. Ce qui fait que bah, peut-être qu'au bout d'un an, tu vas dire « Bah, quand je rentre chez moi, je pourrais avoir ça aussi.
» D'accord.
Voilà. Et ce qui fait que t'étais pas du tout forcément un plongeur ou quelqu'un qui était sensible à l'environnement marin. Et pourtant, tu vas potentiellement devenir un acteur. Voilà.
Votre projet, il est quand même bien, bien installé. On n'est pas que sur du prototypage. Enfin, vous avez déjà toute une stratégie à OceanStream pour ce projet d'aquarium digitaux.
Alors, l'évolution et le développement, effectivement, il a été longuement pensé. Il est plus mature, je dirais, que les actions concrètes actuellement. C'est là où on est en train de, voilà, on est en train de remettre de l'énergie et des forces pour rattraper l'idéal. Mais clairement, on a un projet qui, d'un point de vue conception, est très mature. Maintenant, c'est de passer aux actes très concrets, et ça, on espère bien que d'ici, je dirais, mai prochain, on a le premier prototypage qui est fait, et on peut commencer à vraiment travailler avec de la matière, et ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est important, quand on est en train de créer des nouvelles choses, d'arriver avec des éléments concrets, même s'ils ne sont pas parfaits, ça permet d'avancer. Voilà, c'est important.
Ce qu'on retient, Adrien, c'est qu'il faut se battre. Du coup, il faut s'engager. On invite vraiment nos auditeurs et nos auditrices à aller se renseigner sur OceanStream, à aller regarder cette magnifique vidéo et ce projet complètement démesuré, mais tellement, tellement beau et rêveur et surtout réalisable de ce qu'on comprend. Et Adrien, on ne sait comment te remercier. Merci pour tout.
Moi, je vais m'inscrire, donc ça, c'est sûr.
Bah, on a déjà des fidèles dans l'émission. On ne fait pas du tout de publicité, en fait, dans ce podcast. Vraiment, ça ne s'entend pas.
Tout est bien.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.